choses. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers amis, l'histoire charrie son lot d'événements un peu étonnants et de paradoxes. Lorsque l'on sait l'apparence tout à fait glorieuse, lorsque l'on sait la compétence de l'équipage qui était présent dans le Titanic, et lorsque l'on sait que l'on avait le toupet, les ingénieurs avaient eu le toupet de le surnommer l'insubmersible, on peut s'étonner qu'en peu de mois, son histoire ait pris fin et qu'il ait coulé parce qu'un simple iceberg était entré en collusion avec lui. Vous voyez que parfois il arrive que des navires dont on attend tout ne donnent rien. Et puis à l'inverse, cette pauvre petite barcasse, j'allais dire, ce radeau de la Méduse de ce bon Saint-Pierre qu'on voit aujourd'hui à l'épreuve dans l'Évangile, cette petite barque que l'on connaît en Terre Sainte, à fond presque plat, qui ne dure que quelques décennies et ensuite eh bien moisie ou dépérie, voilà que cette barque, voyez-vous, ça fait 2000 ans qu'elle est toujours à flot. Alors voilà ce genre de paradoxe de l'histoire qui nous montre qu'il ne faut pas se tromper lorsque l'on met à l'eau un navire, il ne faut pas se tromper sur la personne qui commande. Vous savez peut-être que la petite histoire le dit fréquemment, la raconte fréquemment à propos du Titanic, vous savez peut-être que sur la coque étaient gravés ces mots très étranges où on peut se demander ce qu'ils font sur la coque d'un navire, qui du moins font froid dans le dos quand on connaît la suite de l'histoire du Titanic, ni Dieu ni maître. Voilà ce qu'il est advenu à ceux qui avaient choisi de ne pas prendre Dieu comme capitaine du bord, ou au moins de ne pas embarquer Jésus-Christ avec eux. Quant à la barque de Simon-Pierre, on sait très bien que c'est Jésus qui, aujourd'hui, grâce au récit de l'évangile de Saint-Luc, c'est Jésus qui prend possession de la barque de Saint-Pierre et qui fera en sorte que lorsque la tempête fera rage, dans un autre récit de l'évangile, Jésus dormant à bord, rien n'advient, puisque aussitôt à la prière de ses disciples, il se lève et il apaise les flots. Nous savons également que, c'est évidemment métaphorique, que cette petite barque qui deviendra plus tard le bateau des douze, et plus tard encore cette nef magnifique, guidée par les successeurs de Pierre et le collège apostolique, on sait que bon an mal an, et au gré de toutes les crises, finalement, cette barque a réussi à tenir bon, à tenir droit. Comment faut-il faire pour que, Jésus étant à bord, l'équipage sache encore où aller ? Que faire pour que la barque aille à bon port ? C'est, je crois, tout le problème de la vocation. Parce que si nous voulons que cette barque aille loin, il ne suffit pas que le Seigneur soit à bord. Encore faut-il que chacun soit à son poste. C'est bien ce qui nous est demandé. Nous avons certes un appel universel à la sainteté dans cette barque, mais en même temps, il faut que chacun sache exactement ce qu'il a à faire. Aujourd'hui, dans l'évangile de Saint-Luc, Saint-Luc fait un zoom sur la seule personne de Saint-Pierre. Mais c'est évidemment à travers Saint-Pierre, n'importe lequel, n'importe laquelle d'entre nous, qui doit se reconnaître. Que se passe-t-il ? Comment Saint-Pierre réussit-il à correspondre à la volonté de Jésus sur lui et à occuper le poste que Jésus veut pour lui ? Le poste glorieux de prince des apôtres, même s'il ne le lui dit pas aujourd'hui d'emblée. C'est bien pourtant ce à quoi il veut en venir avec Saint-Pierre. Je crois qu'il y a une première qualité à avoir pour pouvoir être placé par Jésus à sa bonne place à bord du navire qu'est l'Église, c'est la générosité. C'est le premier critère qu'on observe dans un candidat au séminaire. Peut-être le savez-vous, en tout cas si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. On n'attend pas qu'il ait bon port, on n'attend pas qu'il connaisse, qu'il ait une science très large, on n'attend pas qu'il soit très obéissant, très discipliné, qu'il ait une tête de séminariste en attendant, on attend qu'il soit généreux. Et je crois qu'en termes de générosité, Saint-Pierre ici nous sert d'exemple. Il vient de passer toute la nuit à travailler à bord, et pour un résultat si piètre qu'il n'a rien pris. Jésus arrive et lui demande s'il peut embarquer pour enseigner les foules. J'avoue que pour ma part, si j'avais été à la place de Saint-Pierre, Jésus aurait entendu autre chose qu'une simple acceptation docile, comme Saint-Pierre en a fait la preuve. Je pense que j'aurais jeté Jésus, ni plus ni moins, et que je lui aurais demandé de passer à un moment où je serais un peu reposé. générosité de Saint-Pierre. Deuxième générosité de Saint-Pierre, quand Jésus, qui n'y connaît rien en affaires de pêche, je veux dire, en tant que fils de charpentier, je ne crois pas que Jésus ait tout à fait la science qui convient en termes de pêche. Parce que vous le savez, sans doute, dans son humanité, Jésus n'avait pas toutes les sciences, il ne connaissait pas tous les arts, ni toutes les disciplines. Et je crois effectivement que, quant à la pêche, Jésus n'y connaissait rien. Et voilà que ce Jésus demande au vieux madré de Saint-Pierre, au spécialiste de la pêche, d'aller au large, de jeter son filet pour qu'enfin des poissons, jusqu'à faire craquer le filet, s'engouffrent dans ses nasses. Saint-Pierre obéit. « Sur ta parole, j'irai. » Nous avons trimé toute la nuit, Seigneur, et je m'y connais, mais sur votre parole, avançons, et je jetterai les filets. Troisième générosité de Saint-Pierre, à la fin du récit, lorsque l'on nous dit que, laissant là leurs filets, ils le suivirent, et Saint-Pierre en tête. Voyez donc ce cœur extrêmement généreux, extrêmement prompt à servir, qu'est celui de Saint-Pierre. C'est bien pour ça que Jésus a fait faire de lui le premier des papes, qu'il a pu le mettre à cette place éminente. Mes frères, la première qualité que nous devons avoir lorsque nous voulons faire le bien, et c'est bien pour ça que vous êtes là ce matin, nous voulons faire le bien, nous voulons être de cette embarcation qu'est l'Église, et nous voulons être à notre place. La première qualité, c'est la générosité. L'écoute. Audi Israël, Shema Israël, écoute. Je vais te dire où tu te mets, mais sois docile, ne commence pas à pinailler, ne commence pas à discuter. Vous voyez, il arrive très souvent dans notre vie que nous ayons quelques difficultés. Bien sûr, au baptême, nous ne nous souvenons plus trop la façon dont ça s'est passé, mais bon, grosso modo, avec la communion solennelle, nous avons accepté de reconnaître que nos parents avaient bien fait de nous porter sur les fonts baptismaux. À la première communion, à la confirmation, peut-être au mariage, pour ma part, lors de mon ordination, nous avons été heureux que le Seigneur nous prenne sous sa garde, nous demande d'être à un poste particulier dans l'Église, et nous étions pleins de générosité. Mais ce qui est difficile, voyez-vous, enfin vous le savez peut-être mieux que moi parfois, c'est de durer. Voilà ce qui est compliqué, de durer. Ne serait-ce qu'en quelques lignes, on voit que Saint-Pierre a cette qualité. Il dure, il accepte de persévérer dans la générosité, bien que ce que lui demande le Seigneur paraît totalement fou à l'aune humaine. Voyez ? Est-ce qu'il s'agit simplement d'être avec le Seigneur à bord ? Je résume les différentes conditions lorsqu'on est dans l'Église. D'être avec le Seigneur à bord et non pas sans Dieu ni maître. Est-ce qu'il suffit d'être généreux pour pouvoir correspondre à l'appel de Dieu ? Non, notre générosité ne suffit pas. Encore faut-il que Dieu appelle. Encore faut-il que Dieu nous enseigne pour nous dire exactement ce qu'il attend de nous. C'est bien ce que fait Saint-Pierre. Il laisse Jésus embarquer et sans doute, alors qu'il était au bord du sommeil après cette nuit de labeur, Saint-Pierre a dû boire les paroles de Jésus. Ce n'est qu'une fois qu'il a bu ces paroles de Jésus, qu'il a appris ce que Jésus attendait de lui, qu'il a su ce qu'il fallait faire. Voyez-vous, qu'il est allé jeter les filets, qu'ensuite il a tout quitté pour suivre le Christ. Sans doute que ce discours de Jésus, dont j'aimerais bien que Saint-Luc nous fasse un récit un peu plus substantiel, on ne nous dit rien du tout. Imaginez ce qu'a dû être ce discours pour que Saint-Pierre sache exactement où aller. Une générosité donc, on embarque Jésus, on est généreux, Jésus nous parle, on écoute l'enseignement qu'il nous donne, toi fais ci, toi fais ça. Dans d'autres récits, dans les synoptiques ou dans l'évangile de Saint-Jean, les choses se passent pour chacun d'une manière différente, l'avez-vous remarqué ? Chez Saint-Jean, par exemple, c'est frappant. Premier chapitre de l'évangile de Saint-Jean. Dès que vous trouvez un moment, allez le voir. L'appel des premiers disciples. Comment ça se passe ? Saint-Jean, Saint-Jacques sont des apôtres, ou plutôt sont des disciples de Saint-Jean-Baptiste. Jean-Baptiste leur dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et ils y vont. Ils suivent Jésus. Jésus se retourne. « Que faites-vous là ? Maître, où demeures-tu ? Venez et voyez. » Ils demeurèrent avec lui ce jour-là. Vous voyez, c'est encore un autre appel que celui de Saint-Pierre. Et puis, on nous dit que de bouche à oreille, Saint-André, Saint-Pierre ont été mis au courant que Jésus était là. Puis, c'est le tour de Nathanaël. À chacun, vis-à-vis de chacun, Jésus utilise un mode particulier d'appel et confie une mission particulière. Il donne un nom particulier à Simon. Il change ce nom en Pierre. Il donne un nom particulier à Saint-Jean et Saint-Jacques, les fils du tonnerre. Il donne des noms parce qu'il confie une mission particulière, voyez-vous. C'est ce qu'il nous faut entendre du Seigneur. Comment voulez-vous savoir quelle est votre place dans l'Église si vous ne fréquentez pas chaque jour Jésus-Christ? Si vous n'avez pas ce dialogue simple, cette disponibilité, elle est déjà belle, cette générosité, elle est belle, cette promptitude à servir, elle est belle, mais gare à l'acquilisme, mes frères. Vous risqueriez bien rapidement de n'en faire qu'à votre tête si, de temps à autre, vous ne vous mettez pas à l'écoute de Jésus. Avoir un cœur grand, c'est beau, mais laisser Jésus vous parler, laisser parler Jésus à ce cœur, c'est encore plus beau. Ça nous permet de savoir où il faut servir avec efficacité. Et mes frères, je le sais, parce que j'accompagne un certain nombre de jeunes gens notamment, qui ne savent pas très bien quoi faire de leur vie, parce qu'ils sont étudiants, qu'ils ont plein de talents, mais qu'ils ne savent pas trop s'il faut s'orienter vers le mariage, la vie consacrée. Alors voilà, ils demandent, que demandent-ils? Des éléments, des preuves, des signes, des miracles parfois. Il ne faut pas avoir peur de demander au Seigneur des miracles. Seigneur, donnez-moi des signes qui attestent qu'effectivement c'est bien le choix que vous avez pour vous. Est-ce que j'ai bien reçu ce que vous m'avez enseigné? Est-ce que c'est bien ça que vous vouliez me dire ou pas? Donnez-moi une confirmation, donnez-moi un signe. Je vous assure que le Seigneur nous donne des signes à longueur de temps. Encore faut-il avoir la délicatesse de les voir, ces signes. Vous me direz, pour Simon, c'était quand même un peu facile, étant donné qu'il s'agissait d'un miracle incroyable, et d'un miracle de poids qui sautait aux yeux, si j'ose dire, qui a failli faire renverser sa barque tellement il y avait de poissons. Vous voyez que Jésus, à chaque fois qu'il vous appelle à faire quelque chose, vous donne des indications, et si vous le lui demandez, ou si au moins votre cœur y tend, il vous donne une confirmation par tel ou tel signe qui sort tout à fait de l'ordinaire. Voyez-vous que dans ce récit de l'appel de Saint-Pierre, de la vocation de Saint-Pierre, nous trouvons vraiment des indications très substantielles, nous trouvons vraiment des indications très importantes qui peuvent guider notre propre vie. Je récapitule, faire entrer Jésus dans la barque. Vous me direz, je suis baptisé, je suis confirmé, j'ai reçu le sacrement de mariage, je l'ai échangé, je suis ordonné, je sais quoi. Donc, vraisemblablement, j'ouvre à Jésus la porte. C'est vrai. Cette première condition, je pense que, grosso modo, nous l'observons tous ici. Deuxième condition, la générosité. Il ne suffit pas de montrer son tatouage, de baptiser, ou de marier, ou d'ordonner, pour croire que l'on est quitte. Non, il faut être généreux, il faut ensuite discuter avec Jésus, il faut dialoguer avec lui, écouter la place particulière qu'il entend que nous occupions, et les moyens qu'il veut que nous déployions pour arriver à nos fins, et enfin, des signes, des confirmations, parfois sensible, parfois extraordinaire, que nous ne devons pas avoir peur de demander au Seigneur pour être sûr d'être à notre bonne place dans ce navire qu'est l'Église, qui, encore une fois, ne prendra jamais la mer, quelles que soient nos tentations de désespoir, quelles que soient les apparences que donne cette embarcation. Ça fait 2000 ans qu'elle tient, et Jésus le dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors courage mes frères, haut les cœurs, et profitons de ces quelques semaines un peu plus clémentes que nous offre l'été, le vrai été, j'espère que ça va durer, pour pouvoir entrer en dialogue avec le Seigneur et approfondir le mystère, car c'en est un, dont nous aurons la clé qu'au ciel, de notre propre vocation dans l'Église. Ne regardons pas autour de nous, regardons Jésus et demandons-lui ce qu'il veut que nous fassions. En serviteur inutile, il nous placera là où bon lui sied, pour la gloire, sa propre gloire et le salut de nos frères. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.